Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi.
Amen. Merci, groupe de louanges. Bon, j'espère que tout le monde est là. C'est une joie pour moi particulièrement ce soir de vous partager la parole. Et j'ai vraiment hâte de partager cette parole parce que je sais que cette parole et pour nous, pour un temps spécial, pour un temps comme celui-ci, et pour cette saison. Alors, elle est simple, cette parole, ce soir, qu'on va partager ensemble. Mais ce que je vous demande, c'est d'ouvrir vos cœurs et de l'accepter simplement. D'accepter que le Saint-Esprit puisse parler à vos cœurs, que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans vos cœurs. Amen. Alors, nous poursuivons notre série « Christ, notre lumière » avec un message ce soir dont le but est de nous encourager, mais de nous encourager témoigner. La semaine dernière, pasteur Pascal nous encourageait à prier, mais ça va ensemble également, et nous poursuivons avec nous vous encourager à témoigner. Pour combien d'entre nous, dans cette salle ce soir, le Seigneur a fait quelque chose? Levez la main. Pour presque tout le monde. Si ce n'est pas encore le cas, il va faire. Et nous, c'est indéniable. Nous sommes la preuve vivante que Dieu a œuvré dans notre vie. Personne ne peut nous enlever cela. Dieu a œuvré dans notre vie. Et nous sommes ses filles et ses fils. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas rien. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et si nous sommes là ce soir, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes membres d'une église œuvrant pour le royaume de Dieu, c'est qu'un jour, quelqu'un a prié. Forcément, quelqu'un a prié pour nous. C'est forcément quelqu'un nous a abordé et forcément quelqu'un a parlé et quelqu'un a témoigné. Ça, c'est sûr. Le thème du message ce soir, c'est la puissance du témoignage. Et Pascal le rappelait fort bien la semaine dernière, Dieu veut travailler avec nous. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Et Dieu a besoin de vous et de moi pour œuvrer, pour que son royaume puisse avancer. Nous sommes la lumière, nous éclairons et nous brillons, non pas pour le monde, mais nous brillons pour Christ. Amen. Alors, vous savez que vous êtes des témoins. Il vous arrive certainement d'être des témoins de mariage, mais vous savez que vous êtes des témoins, mais des témoins de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on puisse l'intégrer et le confesser ce soir. Dites-le à votre voisin s'il ne sait pas, tu es le témoin de Christ. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Et on va lire ce passage dans Actes 1:8 qui va nous dire, Actes 1:8, vous pourrez le lire sur les écrans, « Mais vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce passage, vous savez, se situe juste avant la montée au ciel de Jésus. Et il va donner ce commandement aux disciples, aller par tout le monde, prêcher la bonne parole. Et vous savez, les dernières paroles, ce sont des paroles importantes. Ce ne sont pas des paroles légères et ce ne sont pas non plus des paroles à prendre à la légère. Et Jésus va dire à ses disciples, dans ses dernières paroles, « Vous êtes mes témoins. » Il ne dit pas « Vous serez mes témoins quand vous en aurez envie. » »« Vous serez mes témoins quand vous aurez un moment, un petit temps dans la journée, dans la semaine, tiens, je suis témoin. » Il ne dit pas non plus que « Vous serez mes témoins quand vous viendrez uniquement à l'église. » Ce soir, on est tous témoins. Non, il dit que vous serez mes témoins tout le temps et par tous les temps, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'épreuve, dans les souffrances, dans tout ce qu'on peut traverser, nous sommes des témoins. C'est un statut, nous sommes témoins de Christ. Et nous ne pouvons pas être disciples sans être témoins. On ne peut pas dissocier les deux, c'est indissociable, totalement indissociable. Alors vous savez, être témoin, c'est un privilège quand même. Je ne sais pas, mais si vous avez déjà été témoin d'un mariage, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Parce que quand on vous choisit en tant que témoin, c'est qu'on a de la considération pour vous, c'est qu'on vous aime, c'est qu'on veut que vous soyez là pour témoigner d'un fait et d'une réalité, de quelque chose de spécifique, d'une cérémonie qui se passe. Et voilà, c'est un rôle à prendre avec sérieux. Et Jésus, lui, il nous considère comme ses témoins. Nous avons la grâce, le privilège d'être les témoins de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge. On peut être témoin jeune, on peut être témoin moins jeune, être témoin qu'on est âgé, on est témoin tout le temps en fait. Tout le temps on est témoin. Et le rôle d'un témoin, c'est de quoi? C'est de témoigner, c'est de dire, c'est de parler, c'est d'exprimer, c'est de raconter. Et nous avons tous, chacun d'entre nous, un témoignage personnel. Vous avez levé la main tout à l'heure pour dire « Oui, Christ a fait quelque chose dans notre vie. Christ a changé notre vie. » Et je disais, c'est indéniable. Ceux qui nous ont connus avant et nous connaissent maintenant, ils ne peuvent voir que Dieu a fait un changement de notre vie. Et il opère toujours ce changement. Nous sommes en perpétuel façonnage. Mais vous savez, la bonne nouvelle du témoin, et d'ailleurs c'est Christ qui va le dire, il va dire « Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, Samarie, dans toutes les extrémités de la terre, mais vous ne serez pas seul. Je vous laisse pour ça mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit. » Et c'est le deuxième point, après avoir vu ce premier point, vous êtes mes témoins. Le deuxième point, c'est vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous savez, le mot puissance, en grec, c'est dynamis, pour faire le lien aussi avec dynamite, qui veut dire être capable, rendu capable, avoir la force, avoir les moyens. Et les disciples, ils ont reçu cette puissance. Et cette puissance leur a permis de témoigner, non pas avec faiblesse, mais avec force, avec conviction, avec audace. Et le Saint-Esprit leur a donné aussi une intelligence qui était particulière, une intelligence toute particulière, on le verra dans des exemples tout à l'heure. Ça a changé radicalement leur vie. Leurs conceptions morales et intellectuelles ont totalement été changées. Et ils étaient donc appelés témoins de Jésus-Christ pour aller témoigner. Et on voit que ces disciples, ces 12 disciples, et la Bible nous dit qu'ils ont bouleversé une ville, 12 hommes qui étaient en feu pour Christ et remplis du Saint-Esprit. Alors ils étaient témoins de Jésus parce qu'ils avaient vu Jésus, ils vivaient avec Jésus. Ils ont vu ses œuvres, ils ont vu sa vie de sainteté, ils ont vu le miracle, ils ont vu comment il a été ressuscité et ils pouvaient témoigner avec force de cela. Vous savez, une vie dirigée par le Saint-Esprit, une vie dirigée par le Saint-Esprit n'est pas une vie qui est ordinaire, c'est une vie qui est extraordinaire. Et nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit vit en nous. Et la parole de Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Réalisons juste un petit moment que Dieu nous a donné ce Saint-Esprit, cette puissance, et cette puissance est en nous en ce moment même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre par l'Esprit ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie guidée par l'Esprit ? C'est simplement avoir une vie qui est dépendante de Dieu. Je dépends du Saint-Esprit. Alors pratiquement, comment ça se passe dans la vie de tous les jours ? Je dépends du Saint-Esprit, tant au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais cela passe par la prière quotidienne, pour recevoir la direction précise de ce que Dieu veut nous dire. Et je vous renvoie, et je vous demande de vous faire une faveur ce soir. Réécoutez, je crois que ça sort ce soir, l'excellent message, vraiment l'excellent message du pasteur Pascal de la semaine dernière sur la prière. Si vous avez raté ce message, franchement, encore merci Pascal parce que ça a été un message pour moi particulier. Et je vous invite vraiment à écouter ce message et vous verrez la dimension de la prière. Et comment on connaît la direction de l'esprit en priant, en intercédant chaque jour. Ça passe aussi par la méditation de la parole de Dieu. Je vais citer un passage qui a marqué le début de conversion du pasteur Charles. C'est un passage qu'il aime bien. Je vous l'apprends si vous ne savez pas, mais Josué 1,8 qui va dire que ce livre, celui-là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, une vie guidée par l'Esprit, c'est une vie aussi qui est basée sur la parole de Dieu. C'est une vie qui est dictée par la parole de Dieu. C'est une vie qui est enracinée dans la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de lire, de manger, de digérer, de remanger, de redigérer cette parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie en nous. Et ça passe également par l'écoute attentive de la voix de l'Esprit. Lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous prenons aussi ce temps pour écouter. Vous savez, Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu ne cesse de parler. Et sa parole nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais Dieu parle. Et il parle principalement par sa parole. Il parle aussi par des prophètes. Il parle par des prophéties, etc. Il parle à travers la nature, mais nous devons être attentifs. Et il faut aussi qu'on ni cette oreille attentive pour écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Plus nous serons dépendants du Saint-Esprit, et plus il se révélera à nous. Plus on est dépendant du Saint-Esprit, on désire être dépendant du Saint-Esprit, plus il se révèle à nous. Alors je vais vous donner quelques exemples. Prenons l'exemple de Pierre. On va voir quelques exemples de Pierre ce soir, et de Paul également. Allons dans Acte 10, verset 9. Et on va lire Acte 10, verset 9. On va lire celui-là et le verset également 19 et 20. Vous allez suivre sur les écrans. La Bible nous dit, le lendemain, c'est Corneille qui, on peut donner le contexte, c'est Corneille qui envoie des hommes chercher Pierre pour que Pierre vienne chez lui. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour, comme on dit en créole, râler une sieste. Est-ce que c'est ça? Non. Je vais voir si vous suivez. Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Pierre réfléchissait parce qu'il a eu une vision avec la nappe. Vous allez vous souvenir, il y a le passage. Il réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit dit. Quand l'Esprit dit. Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit dit. Il prie, l'Esprit dit. Descends, vas-y, fais telle chose. Et il devait faire quoi, Pierre? Il devait apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu chez Corneille. Et on sait que la maison de Corneille a été bouleversée, visitée par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Pierre va dire au verset 39, dans le même chapitre, « Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Et voilà ce qu'il dit. Jésus, lorsqu'il montait au ciel, disait, « Vous serez mes témoins. » Et là, il va dire, « Nous sommes témoins. » Voilà Corneille. Il va raconter à Corneille ce qui s'est passé et Corneille et toute sa famille vont être sauvés. On prend l'exemple de Paul et Barnabas pour aller un petit peu plus vite. Acte 13, 2, qui va nous dire, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, certaines versions vont dire qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour Barnabas et Saul, pardon, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et on voit qu'ils étaient sensibles à la voix de l'Esprit. Pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils faisaient leur ministère, le Saint-Esprit agissait. Paul et Silas, cette fois-ci, des hommes sensibles à la direction du Saint-Esprit. Dans Actes 16, verset 6, laissons la parole de Dieu nous exhorter ce soir. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie, le pays de la Galatie. » Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secoue-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. La Bible ne nous dit pas comment le Saint-Esprit leur a empêché. Mais ce que je veux souligner ce soir avec vous, c'est que ces hommes étaient sous la dépendance du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit travaillait avec eux dans la propagation du message de l'Évangile. Le Saint-Esprit était à l'œuvre dans cette mission particulière. Et nous, tels que Pierre, tels que Paul, tels que Silas, tels que les apôtres, nous avons cette mission, c'est le troisième point, de témoigner aux uns et aux autres, aux personnes qui sont autour de nous. Nous devons témoigner, c'est notre rôle, c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais quelquefois, vous savez, on peut avoir peur, une certaine honte, avoir peur du rejet, avoir peur de « qu'est-ce qu'il va penser si j'ouvre la bouche ?»« Et si je dis une bêtise ?»« Et si ceci et si cela ?» Et on a des raisonnements et la parole ne sort pas. On regarde ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Allons voir ce que Paul dit à Timothée. Voilà ce qu'il dit à Timothée. 2 Timothée 1, 7 et 8. Et j'aime bien cette parole. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. » Et il va dire à Timothée, « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » N'aie pas honte, Timothée. Vraiment, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre souffre avec moi pour l'Évangile. N'aie pas honte de l'Évangile. Et Paul lui-même va parler de lui-même, il va dire dans Romains 1,15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. » Voilà quel était le cœur de Paul. « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile. » Et il va dire à vous qui êtes à Rome, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif puis du grec. » Amen. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et voilà ce que Paul va dire, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Et ce vif désir brûlait en Paul. Et je prie ce soir, et je fais cette prière aussi pour moi, mais pour nous, que ce vif désir brûle aussi dans notre cœur. Que ce vif désir d'annoncer la bonne nouvelle brûle en nous. Vous savez, nous n'annonçons pas une mauvaise nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous n'annonçons pas une mauvaise nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous disons à ce monde qu'il y a de l'espoir. Nous disons à ce monde que Jésus guérit. Nous disons à ce monde que Jésus délivre. Nous disons à ce monde que Jésus sauve et qu'il y a de l'espoir même pour les cas les plus terribles. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Oui, on peut acclamer son nom. Il peut arriver aussi que nous disions et nous sentions faibles. Ça arrive, ça m'est arrivé moi plein de fois. Dire, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Et des fois, on peut faire des distinctions comme ça. Oui, à lui, je peux parler. À lui, oulala, vu sa personnalité, je ne peux pas parler. Et on se sent faible, des fois incapable, voire même des fois un peu misérable. On dit, bon, non, je n'ai rien à dire. Mais voilà ce que dit encore l'apôtre Paul. Il va dire dans 2 Corinthiens 12, 8, Paul qui demandait à Dieu, « Seigneur, enlève-moi cette écharde. » Parce que tu sais, peut-être qu'il pensait comme ça, hein, avec cette écharde en moins, en moi, on ne sait pas quelle est cette écharde, mais peut-être que je vais mieux annoncer l'Évangile, peut-être que j'aurai plus d'impact, peut-être que mon message sera plus entendu. Peut-être qu'il avait ce genre de pensée, mais il a prié trois fois. Et la Bible nous dit « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et il m'a dit, voilà ce que le Seigneur l'a répondu, « Ma grâce te suffit, Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et c'est pareil pour nous. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Vous recevrez une puissance, ce Saint-Esprit survenant sur vous. Et comme dit souvent Pascal, mais Dieu, voilà ce que Dieu a dit. Il a dit, on va le lire dans un petit peu plus loin, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dans 1 Corinthiens 1, Dieu a choisi les choses folles, faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Et voilà ce que nous dit la Bible. Et nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le prophète Zacharie va nous dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Daniel le rappelait aussi dans son message, je pense que c'est ton message qui disait que nous sommes des vases de terre. Mais ces vases de terre faibles que nous sommes portent en eux une lumière, portent en eux le Saint-Esprit. Et vous savez, le même Saint-Esprit qui était dans les disciples sont en chacun d'entre nous. Et nous avons cette force et nous avons cette puissance en nous pour parler de la part de Dieu. On parlait de Pierre tout à l'heure. On disait Pierre, c'était quelqu'un. Vous vous souvenez de Pierre avant l'effusion du Saint-Esprit? Alors qu'il disait à Jésus, je te suivrai, je mourrai avec toi, je serai tout le temps avec toi. Et on sait qu'il a renié Christ trois fois. Et lorsqu'il était, il suivait en fait ce qui se passait, mais il suivait un peu, je peux employer un mot en créole, Ça m'a donné l'inspiration tout à l'heure, en Missouk. En Missouk, c'est, je vais traduire, c'est en, je ne sais pas quel mot on peut traduire en Missouk. Voilà, il était un peu comme Zaché, il venait en cachette, voilà, en cachette doucement. Et il faisait, vraiment, il était là, mais il y a trois fois, on m'a dit, ouais, mais toi, tu connais le Christ, tu étais avec lui. Non, jamais, je ne l'ai jamais connu. Et il était même à reculons, et il y a des passages dans la Bible, vous lirez, il était même assis, et il avait peur, Pierre. Il avait peur, il tremblait. Mais une fois que l'effusion du Saint-Esprit, lorsqu'ils ont été visités, on a un nouveau Pierre, on a un autre Pierre. On a un Pierre qui est rempli d'audace. On a un Pierre qui est rempli de feu. On a un Pierre qui n'a plus peur. Et pourtant, il va prêcher devant des milliers de personnes. Alors qu'il était devant un petit groupe juste avant, et il avait peur, il tremblait, cap-cap, comme on dit, capon. Mais là, il était plein d'assurance. Regardez, on va lire ensemble de ce que nous dit Actes, sa posture et son langage. Sa première phrase d'introduction de son message. Je n'avais pas forcément fait attention jusqu'à maintenant. Actes 2, 14. Alors, Pierre, debout. Là, on a un homme qui est plein d'assurance. On n'a pas un petit Pierre qui est assis. Avec les 11 apôtres, s'exprime-moi d'une voix forte. Là, il ne dit pas, je ne connais pas, peut-être que non. Il s'exprime d'une voix forte. L'assurance est là, le feu est sur lui. En ces termes, il faut avoir du courage pour parler de ça. Et on voit que l'Esprit de Dieu est en Pierre. Homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Oh, de l'audace pour dire ça quand même. Hein. De l'audace, hein. Moi, si je dis ce soir, Église extravagance. Comprenez ce qui se passe dans cette saison et prêtez l'oreille à ce que dit le Seigneur ce soir. Parce qu'il parle, ça c'est certain. Et on est dans une autre dimension là. C'est plus le même Pierre. Il est sous l'influence totale du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit agit dans sa vie. Et cette puissance l'amène dans une dimension qu'il n'avait même pas pensée. Et il va prêcher avec audace. Il va dire des choses, vous lirez le passage, où quelquefois ça va poiquer, comme on dit. Pas facile son message, ça poique et ça fouette. Mais la Bible nous dit, à la fin, 3000 hommes se sont convertis. 3000 hommes se sont convertis. Alors 3000 hommes, je ne sais pas combien de familles ça fait, mais l'impact d'un message, vous imaginez, c'est de la dynamite. Là, c'est de la bombe, si on peut employer le terme. La puissance du Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit qui est en Pierre est en nous ce soir. Ce même Saint-Esprit qui a fait ce miracle est en chacun d'entre nous ce soir. Dis-le à ton voisin, ce même Saint-Esprit est en toi. Amen. Mais nous devons oser. Oser parler. Oser ouvrir notre bouche. Ouvre ta bouche, nous dit la parole de Dieu, et je la remplirai. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Arrête de laisser l'ennemi te faire croire que tu n'as pas les moyens de parler, que tu n'as pas les capacités de le faire. On verra un exemple tout à l'heure. Alors on peut témoigner bien évidemment en disant ce que Dieu a fait dans ma vie, dans nos vies. Chacun d'entre nous, nous avons un témoignage fort, un témoignage puissant qui a bouleversé notre vie. Et si je vous demandais à chacun d'entre vous quel est le témoignage fort qui a bouleversé votre vie, certainement vous en aurez un ou voire même plusieurs parce que Dieu est bon et Dieu agit. Mais ça passe aussi par notre manière d'être. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que votre lumière luise devant les hommes. Elle ne doit pas être éteinte ou cachée sous le boisseau, comme nous a dit Charles, cachette comme ça, comme Pierre. Non, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Et nous devons, et pouvoir avoir que notre lumière brille, comment on fait ? On agit comme on doit le faire sur la parole de Dieu. Comme nous dit le Saint-Esprit, que votre lumière brille. Alors, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre manière de parler, notre manière, nos relations les uns avec les autres vont impacter notre société, vont impacter celui qui est à côté de nous, va interpeller celui qui est à côté de nous. Et j'aimerais laisser cette citation d'Alexandre Westphal qui va nous dire, je pense que c'est affiché, avant de dire « il faut être », tout le monde est d'accord avec ça, avant de dire « il faut être. Le témoin de Jésus ne doit pas ressembler au poteau indicateur qui montre le chemin sans le suivre. » Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas être un poteau indicateur. dit, Seigneur, je ne veux pas être un poteau. Un poteau indicateur, il dit, ben, tiens, il y a prière ce soir ou demain, c'est par ici. Il y a célébration, c'est par ici. Évangélisation, c'est par ici. Mais il n'y va pas. Et il ne donne pas l'exemple. Je ne veux pas être un poteau indicateur. Je ne suis pas pour vous, mais je veux agir avec Christ. Je veux être aussi un exemple. Et nous ne sommes pas des exemples parfaits, mais le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous, bien évidemment. Alors ne soyez pas un poteau, soyons des disciples de Christ. Quand l'Esprit de Dieu agit, est en action dans la vie d'un homme, d'une femme, il y a un impact sur sa moralité, ça c'est certain. Il y a un impact sur ses pensées, il y a un impact sur son intelligence. Et ça c'est clair que il y a le renouvellement de l'intelligence. Et on pourrait dire, mais Jimmy, ouais, mais moi je ne suis pas capable. Mais le Saint-Esprit est en toi. Ne minimise pas l'impact du Saint-Esprit. Laissons-le agir et l'accueillir dans nos vies. Acte 4, 13 va nous dire. Acte 4, 13. Pierre qui prêche. On a le nouveau Pierre, là, qui est rempli de feu, rempli de puissance, qui est en zèle, qui a envie de propager l'Évangile, qui a ce vif désir que le royaume de Dieu s'étende. Et ce Pierre, il va dire dans Acte 4, 13, on dit, lorsqu'il vire, et là il est devant la foule, il est devant les responsables religieux, et il parle avec assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des hommes sans instruction, c'était des pécheurs. Vous savez, pour annoncer la parole de Dieu, il n'y a pas besoin de bac plus 2, plus 7, plus 8, il n'y a même pas besoin de bac. Juste ouvrir sa bouche et avoir la puissance du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Et nous devons désirer, c'est notre mission, c'est ce que Dieu nous a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Et vous serez mes témoins. Vous direz ce que j'ai fait, vous direz ce que contient ma parole, vous direz comment j'ai agi dans votre vie. On ne peut pas garder ce trésor caché en nous sans le donner aux autres. Nous avons tous une responsabilité. Vous savez, nous devons tous un jour rendre compte au roi des rois. Certes. Ce n'est pas réservé à des évangélistes. Certains ont ce don d'évangélistes, ont ce don. Mais tous, nous sommes appelés à parler. Et imaginez-vous si la personne à qui vous a parlé de Christ pour la première fois n'avait pas parlé, si elle n'avait pas osé. Que ce soit, je disais, à l'école, au travail ou autre. Nous, c'était à l'école, Charles, en quatrième. Nous étions jeunes, beaux et forts. On faisait plein de bêtises aussi. Mais c'est en quatrième, troisième. Voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas d'âge. Et lorsque on parle de Christ, lorsqu'on témoigne, ça amène une joie particulière. Moi, je me permets, je le connais depuis très longtemps. Quand je vois Charles aujourd'hui, c'est une fierté. Et je rends grâce à Dieu, je me dis, voilà, Dieu a changé sa vie, bouleversé sa vie, bouleversé sa famille, et ce n'est pas encore fini, il y a des choses à venir. On ne sait pas ce qui se passe demain. Un homme, voilà, une rencontre, et boum, le plan de Dieu. Et vous savez, témoigner amène une joie particulière dans notre vie, témoigner amène une joie particulière dans la vie de l'Église. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'un pécheur se repent, un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Et je crois que cette joie nous est communiquée lorsque nous parlons de Christ et lorsque on propage la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, la joie nous atteint, la joie nous inonde. Et moi, je prie que la joie du Saint-Esprit nous saisisse. Amen. Amen. Alors, comprendre notre champ de mission. Voilà notre quatrième point. Je vais avancer. Comprendre notre champ de mission. Vous savez, il y a une graduation dans ce que nous avons lu dans Acte 1, 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples devaient commencer dans leur région la plus proche. Et ce soir, je veux nous poser cette question. Quelle est notre Jérusalem? Vous savez, ça correspond à quoi notre Jérusalem, notre entourage? C'est une réponse aussi pour toi, Yves. Je discutais avec lui avant ce message. C'est notre région la plus proche, notre entourage, notre famille, nos amis, notre cercle qui est à côté de nous. Eux aussi, ils ont besoin de Christ. Eux aussi, ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons garder pour nous. Qu'est-ce que nous risquons de parler de Christ? Peut-être qu'on va se moquer de nous, nous rejeter. Vous savez, il y a des pays persécutés, on rentre en prison, on est tué. On prend la Corée du Nord, on prend d'autres l'Inde, qui est soi-disant un pays démocratique, ou d'autres pays. Mais nous, qu'est-ce que nous risquons de propager le message de l'Évangile? Pas grand-chose. Et il va dire donc notre entourage le plus proche. Et quelquefois, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais commencer? Et nous devons prier. Paul va demander à l'Église, Paul va dire dans Éphésiens 6, 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Je l'admire, Paul, il est enchaîné. Enchaîné, il a cette passion de l'Évangile, cette passion de pouvoir propager le message de l'Évangile. Ensuite, il va dire dans la Samarie. Ça veut dire que nous devons élargir aussi notre champ de vision et notre champ aussi d'impact. Ça parle de notre travail, ça parle de nos relations avec les professionnels, ça parle de notre école, ça parle de notre quartier. Et c'est dans cet endroit-là également qu'on doit propager le message de l'Évangile. On est témoin partout. Je le disais au début, on n'est pas témoin uniquement à l'église, on n'est pas témoin uniquement à la maison. On est des témoins, mais il est faux et il est bon. Et surtout, nous sommes témoins à l'extérieur pour ceux qui ne connaissent pas Christ encore. Nous devons être ces témoins. Et il est important qu'on puisse le faire. Et puis, il va dire jusqu'aux confins de la terre l'importance pour nous de toucher d'autres régions. Et ça dépasse toutes les barrières culturelles. Ça dépasse toutes les barrières ethniques. Tout le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le désir de Christ, son désir particulier, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance du salut. Voilà ce qui le Seigneur, son désir particulier, et que nous aussi, nous devons désirer. Souvent, nous chantons ton désir, ou nous disons, nous voulons ton désir, que tes voix soient nos voix, ton désir, ta volonté, ma volonté. Voilà la volonté de Christ. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de Christ. Comment il va faire s'il n'y a pas de prédicateur, comme nous dit la parole de Dieu? Comment il va faire s'il n'y a pas des gens qui parlent? N'entendez pas par prédicateur que celui qui est sur ici, mais nous tous, nous pouvons parler de la parole de Dieu. Nous tous, nous pouvons témoigner. Et la Réunion est cette terre multiculturelle. Et nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour notre île. On le fait en ce moment. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? On doit justement s'investir dans la prière, Pascal l'a dit, s'investir dans le jeûne et la prière, s'investir en s'engageant également dans une œuvre, s'investir en soutenant financièrement aussi les œuvres. C'est ça aussi, travailler pour le royaume de Dieu. Et je pensais à ce verset qu'aime bien Daniel, Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et je réfléchissais à ça également quelquefois. Ça veut dire qu'aimer, quand je cherche le royaume, j'aime le royaume. Je désire ce que désire le Père. Je veux faire la volonté de ce que fait le Père. Et lorsque je prêche la parole, lorsque j'annonce la parole autour de moi, je bâtis le royaume, je cherche le royaume, j'aime le royaume. Et la parole de Dieu va nous dire quoi à la suite? Que tous nos besoins seront pourvus en abondance et même au-delà. Lorsque nous cherchons, lorsque nous avançons, lorsque nous voulons y aller. Alors je vais avancer un petit peu, Église. Je vois que vous avez les regards fixés sur moi. Je ne vais pas être lapidé, non. Non. Je plaisante, tout ça pour vous dire que j'aimerais que vous puissiez regarder vos pieds. Non, mais sérieusement. Regardez vos pieds un moment, sérieusement, regardez vos pieds. Comment vous les trouvez? Moi, j'aime bien le mien. Hein, mais regardez vos pieds. Regardez pas les pieds de vos voisins. Ça s'adresse à vous particulièrement. Regardez vos pieds. Alors, est-ce que je pourrais en même temps avoir le groupe de louanges, hein, s'ils peuvent venir en même temps? Regardez vos pieds. Vous savez ce que nous dit la parole de Dieu? Et ce message pour nous ce soir. Qu'ils sont beaux, Ésaïe 52, 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Il ne dit pas qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds qui courent pour faire du créole, l'a dit la fée. Je cours là-bas, je vais. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça du tout. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes des pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alors vos pieds, ils sont beaux lorsque vous propagez le message de l'Évangile, lorsque vous allez de lieu en lieu, lorsque vous allez de maison en maison, lorsque vous allez rencontrer des gens, la Bible dit que vos pieds sont beaux. On poursuit dans Éphésiens 6, 15, je vais lire la parole vivante. Peut-être on va dire, mais je n'ai pas de chaussures. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile. Chaussez-vous, mettez-vous des chaussures. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et la paix avec Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'on annonce la bonne nouvelle du salut, vous avez vu dans les deux passages, il y a la paix qui est avec. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Pas de temps en temps, soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Vous êtes à la boulangerie, vous êtes à la station service, vous êtes dans votre travail, soyez toujours prêts à transmettre cette parole. Je pensais à Charles lorsque je préparais ce message également. Et je me disais, je sais que ce message est un message particulier et que Dieu a donné pour cette saison. Et dans cette saison, dans ce temps particulier, Charles qui est pasteur principal, mais qui représente l'Église, et symboliquement, chaque soir, il est dans une commune, ses pieds foulent clairement une commune. Ce soir, ce sera Saint-Louis. Il va marcher sur la commune de Saint-Louis. Et vous savez qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et nous nous foulons avec Charles les communes, et nous savons que Dieu nous donnera ces lieux lorsque nous prions, lorsque nous intercédons et nous réclamons la réunion pour Jésus. Amen. Et vous savez ce qui est magnifique là-dedans ? Dans Marc 16, 20, il est dit, parlant des disciples, et ils allèrent. La Bible dit, vous serez mes témoins. Et ils ont dit, non, 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 ils n'ont pas dit, non, 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 nous, on ne veut pas. Envoie-lui, moi, je ne viens pas. Comme Moïse et Aaron. Non, non, non. Ils y allèrent. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous voulez que le Seigneur travaille avec vous? Moi, je rêve. Et je dis, Seigneur, oui, travaille avec moi. Et le Seigneur veut travailler avec chacun d'entre nous. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer sa parole, comment? Par des miracles qu'il accompagnait. À chaque fois qu'on annonce la parole de Dieu à quelqu'un, à chaque fois qu'on témoigne à quelqu'un, Dieu travaille avec nous et Dieu est à l'œuvre. Encore une fois, combien d'entre nous nous étions avant de connaître Christ dans la galère la plus totale? Souvenons-nous-en, un petit peu en arrière pour certains, plus en arrière pour d'autres, comment Dieu a changé notre vie. Pourtant désespéré, il a transformé. Le Seigneur travaillait avec eux. Les situations les plus extrêmes ont été changées en bénédiction. Et il est temps pour nous, famille, ce soir, c'est un message du cœur de Dieu, temps pour nous ce soir de nous lever. Il est temps pour nous ce soir d'arrêter de baisser la tête. Il est temps pour nous ce soir de dire, de laisser le diable gagner du territoire. Mais il est temps pour nous de nous lever. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te donnerai. Les lieux sont multiples, la moisson est grande, il y a des gens qui attendent Christ, qu'on puisse se lever, qu'on puisse aller témoigner, être ces flambeaux, ces lumières, être ces témoins de Christ pour que le monde change et pour que le royaume de Dieu avance. Je priais et je crois que c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est le message pour nous. Ce soir, je le notais sur mon téléphone pendant qu'on priait un peu plus tôt. Cette parole qui dit, on va aller dans Ésaïe. Je vais prendre le téléphone parce que je vais lire une version. Ésaïe 60, verset 1. Je crois que c'est le message pour nous, Église, ce soir. Debout, Jérusalem. Debout, extravagance. Sommes la Jérusalem de Dieu. Debout, Église, non pas assis comme Pierre l'a été à un moment donné. À un moment donné, on a vu avec l'effusion du Saint-Esprit, il a été debout. Debout, Église, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Et moi, je crois que c'est la parole de Dieu et c'est la promesse de Dieu pour notre Église ce soir. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur. Ta parole nous interpelle, Seigneur. Ta parole nous parle simplement, Seigneur. Et nous voulons avoir ce cœur ouvert, Seigneur, lorsque tu nous interpelles, Seigneur. Nous voulons avoir ce cœur tendre, Seigneur, et répondre, Seigneur, à ton appel. Oui, tu nous as donné, Seigneur, un mandat. Tu nous as donné une mission, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, de celui qui dit à Sion, tu es mon Dieu. Tu nous demandes de toujours être prêt à transmettre ta parole, à briller dans ce monde. Et nous voulons, Seigneur, ce soir répondre à ton appel. Nous voulons, Seigneur, alléluia, t'obéir, Seigneur. Ô Dieu puissant, Saint-Esprit.